Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document un peu particulier qui pourrait sembler un peu technique à première vue. Le manuel d'utilisation d'un électrificateur de clôture, le Energifil 12 volts.
Oui, un mode d'emploi, ça ne fait pas forcément rêver.
C'est ça. Mais en réalité, c'est une porte d'entrée fascinante sur une technologie qu'on croise partout dans nos campagnes. Et notre mission, ça va être de transformer ce guide pratique en une exploration pour vraiment comprendre comment ça marche, au fond.
C'est une excellente idée, parce que ce manuel, au-delà des instructions, il révèle toute la logique d'un système électrique très très spécial. C'est un circuit ouvert qui, en fait, attend juste une chose, se fermer.
D'accord.
Et on va pouvoir explorer ça en suivant trois axes, un peu comme le propose le manuel. D'abord, le principe de base, fondamental, comment le courant circule, c'est la clé. Ensuite, les aspects très pratiques, l'installation, les réglages. Et enfin, l'entretien, le diagnostic, parce qu'on va voir que la performance dépend de bien plus que l'appareil lui-même.
Parfait. Décomposons ça. Commençons par la base. Comment un animal reçoit une décharge?
Le secret, comme le document l'explique, ne se trouve pas que dans le fil.
C'est le point le plus contre-intuitif et le plus important. Pour qu'une impulsion soit ressentie, il faut un circuit fermé. Une boucle.
Une boucle. Oui, le courant part de la borne clôture de l'appareil, il parcourt le fil. Et là, il attend. Quand un animal touche le fil, le courant trouve enfin un chemin. Il traverse le corps de l'animal, passe dans le sol par ses pattes, et ensuite, il est collecté par une prise de terre qui le ramène à la borne terre de l'appareil. Et voilà, la boucle est bouclée.
Donc, si je comprends bien, sans un bon retour par la terre, le circuit est incomplet.
Il est incomplet et l'impulsion est totalement inefficace. L'animal et le sol font intégralement partie du circuit. Ce ne sont pas des éléments extérieurs.
C'est là que la fameuse prise de terre entre en jeu alors. Le manuel insiste énormément dessus, il y a même une phrase en majuscule. Une prise de terre n'est jamais trop bonne.
Absolument. Et sa fonction, ce n'est pas la sécurité comme dans une maison.
Ah non ?
Non, pas du tout. Sa fonction est d'assurer le retour du courant, de le collecter. Le manuel est d'ailleurs très précis. Il faut enfoncer un piquet ou un tube galvanisé à environ 1 mètre de profondeur.
1 mètre ?
Oui, il précise même que moins de 50 cm, c'est jugé insuffisant. Et il y a un test très simple. Si on sent un courant en touchant le piquet de terre, c'est le signal qu'il faut l'améliorer, soit en l'enfonçant plus, soit en en ajoutant un deuxième.
Le circuit est bouclé, c'est clair. Maintenant, parlons de la ligne elle-même. J'imagine qu'on n'installe pas la même chose pour des vaches que pour des moutons.
Bien sûr, la hauteur est adaptée à la taille et au comportement de l'animal. Pour les bovins adultes, c'est simple, un seul fil à 80 cm du sol, ça suffit.
D'accord.
Pour les chevaux, on recommande un ruban, c'est plus visible, à 100 ou 110 cm. Et là, il y a une astuce qui montre l'expérience de terrain.
C'est-à-dire ?
Le manuel conseille de le doubler d'un fil de fer galvanisé. C'est pour pallier la fragilité des petits conducteurs dans le ruban qui peuvent casser sans que ça se voie.
Ah ouais, voilà. Une sécurité.
Exactement. Et pour les moutons, les chèvres ou les cochons, là, c'est plus complexe. Deux fils à 30 et 60 cm. Et s'il y a des jeunes, on passe même à trois fils pour créer une vraie barrière.
Et le choix des matériaux semble aussi crucial. Le manuel a des préférences très, très claires.
Oui, il favorise la robustesse, la durabilité. La meilleure configuration, la Rolls-Royce en quelque sorte, c'est piqué en bois, isolateur de qualité et fil de fer galvanisé de bon calibre.
Et à l'inverse ?
À l'inverse, il émet de grosses réserves sur les solutions pratiques. Le ruban et le câble électroplastique, il dit qu'ils ont tous les défauts, sauf la commodité.
C'est direct, hein ?
C'est très direct. Il conseille de ne pas dépasser 100 mètres avec de l'inox, 500 mètres avec du cuivre et de les remplacer tous les ans. Et surtout, ne jamais, jamais faire de nœuds.
J'ai aussi noté une astuce assez surprenante pour l'installation d'appareils lui-même, pour éviter les fourmis.
Ah oui, ça, c'est un de ces détails de terrain qui rappelle que la théorie se heurte toujours à la pratique.
Racontez.
Il est conseillé de poser l'appareil sur du bois imprégné d'huile de vidange ou de carbonyle. Pourquoi, je cite, « les fourmis iront ailleurs ». On imagine bien le technicien qui a ouvert un boîtier et l'a trouvé rempli de fourmis qui court-circuitaient tout.
Incroyable. Passons maintenant au cœur du système. La puissance. L'appareil a un bouton de réglage gradué de 5 à 30. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Alors, ce bouton, il règle l'énergie de chaque impulsion. Qui se mesure en joules. C'est ça, la vraie mesure de l'impact. Sur la position maximale 30, l'appareil délivre 1 joule. Sur 15, on est à 0,5 joule et ainsi de suite.
D'accord. Et ça se traduit comment en volts ?
Eh bien, avec une charge standard qui simule un animal, disons 500 hommes, on a 4000 volts en position 30 et 1500 volts en position 5. Et attention, le manuel précise bien qu'à vide, sans rien qui touche la ligne, ces tensions sont plus que doublées.
Et le réglage dépend de la situation, j'imagine.
Exactement. Les réglages forts, de 15 à 30, c'est pour les longues lignes, on parle de jusqu'à 5 hectares, ou des clôtures avec des pertes, genre de la végétation qui touche le fil, ou alors pour des animaux difficiles ou pas encore habitués.
Et les réglages faibles ?
Les réglages faibles, de 5 à 10, sont suffisants pour des lignes courtes, un hectare par exemple, bien propres, avec des animaux paisibles.
Cette différence de puissance doit avoir un impact énorme sur l'autonomie de la batterie.
L'impact est spectaculaire. C'est vraiment le grand compromis du système. Avec une batterie standard de 40-50 ampères-heure, tenez-vous bien.
Je m'assois.
En fonctionnement permanent, sur la position 30, l'autonomie est de...
2 semaines.
Seulement 2 semaines.
Seulement.
Mais si on passe sur la position 15, à mi-puissance, on passe à 1 mois. Et si on est sur la position 5, on atteint 3 mois.
D'accord, le rapport est énorme.
Un rapport de 1 à 6. Et un point technique qui est fascinant, c'est que la puissance est régulée électroniquement. C'est-à-dire que pour un réglage donné, l'énergie de l'impulsion reste constante, que la batterie soit pleine ou presque vide. La clôture ne faiblit pas.
Il faut donc bien prendre soin de cette batterie. Comment on sait si tout fonctionne correctement ou s'il y a un problème ?
Le principal outil de diagnostic, c'est un simple voyant rouge. Mais son intensité lumineuse est proportionnelle à la tension dans la ligne. C'est un voltmètre visuel, en quelque sorte.
Et on interprète comment ?
La logique est simple. S'il ne s'allume pas, mais qu'on entend les impulsions, le tic-tac, c'est qu'il y a probablement trop de pertes sur la ligne. Le courant part, mais n'arrive pas au bout.
Et si on ne voit rien et qu'on n'entend rien ?
Alors là, c'est un problème d'alimentation. Batterie déchargée, branchée à l'envers, ou alors une panne de l'appareil.
Le manuel propose aussi un test plus direct pour vérifier l'appareil lui-même, une sorte de test de l'étincelle.
Oui, le contrôle à vide. On règle la puissance sur 30, sans rien brancher sur la borne clôture. On prend un fil isolé, on le connecte à la borne terre, et on approche l'autre bout de la borne clôture.
Et là ?
Et là, on doit obtenir, je cite encore, chaque seconde une étincelle violente de 4 à 6 mm. Si on a ça, une belle étincelle bleue qui claque, l'appareil est en parfait état. Le problème est ailleurs.
C'est clair. Et pour la maintenance de la batterie, il y a des règles d'or à respecter, j'imagine.
Le point le plus critique, et c'est écrit en majuscule, c'est de ne jamais la décharger en dessous de 10 volts. C'est ce qui tue une batterie au plomb. Si on respecte ça, le manuel promet plus de 5 ans de durée de vie.
Et pour la recharge ?
Un chargeur de voiture standard suffit. Et bien sûr, on la recharge tous les 3 mois, même si elle n'est pas utilisée, et on vérifie le niveau d'électrolyte en complétant uniquement avec de l'eau pure, jamais d'acide.
Alors que retenir de tout ça ? On est parti d'un simple manuel technique et on arrive à une compréhension globale d'un système où chaque élément compte. L'appareil, le fil, l'animal, le sol.
Et la prise de terre.
C'est ça. 3 idées me semblent vraiment essentielles. Premièrement, l'importance du circuit complet. Une clôture électrique, ce n'est pas qu'une ligne de départ, il faut une ligne de retour efficace via la terre.
Le boulevard à double sens.
Exactement. Deuxièmement, le compromis permanent entre la puissance nécessaire et l'autonomie qu'on souhaite. Et enfin, l'attention aux détails. Que ce soit le type de fil, la profondeur de la prise de terre ou l'entretien de la batterie, c'est ça qui fait toute la différence.
C'est un excellent rappel que même les technologies qui semblent simples reposent sur des principes et des savoir-faire très, très précis.
Tout à fait. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, le manuel mentionne que la puissance élevée de l'appareil permet aussi l'électrification de lignes sans isolateur avec fil cloué directement sur les piquets, surtout si le bois est dur et sec.
Ah oui, sans isolateur. C'est étonnant.
Très. Et ça sonne une question intéressante sur la nature même des matériaux. Si le bois sec peut servir de support, presque d'isolant, mais qu'il devient un conducteur, une perte quand il est humide, où se situe la frontière entre un isolant et un conducteur ? Ça nous invite à penser que ces propriétés ne sont pas absolues, hein. Elles dépendent entièrement du contexte et des conditions.
Un piquet en bois peut être un allié et un ennemi.
Voilà, simplement en fonction de la météo.